On va prier ensemble avant d'écouter les Écritures. Eh bien, Père éternel, nous sommes assemblés ce matin parce que tu nous as aimés, parce que tu nous as aimés en Jésus-Christ. Père, nous sommes assemblés pour élever ton nom parce que tu t'es fait notre Père. Tu es venu vers nous, tu nous as tendu la main, tu as mis en place ce pont de grâce qui est l'œuvre de Christ à la croix, Seigneur. Aide-nous à l'apprécier, Seigneur. Aide-nous à le mesurer. Aide-nous à nous reposer comme Jean veut qu'on le fasse dans cette identité nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Père, ton Fils est venu vaincre le diable, ennemi de nos âmes. Il est venu vaincre le péché. Il est venu enlever, ôter le péché. Pour que nous apprenions à notre tour, Seigneur, à livrer ce combat jusqu'à la fin. Viens ce matin nous interpeller. Viens nous convaincre de ta pureté, ta sainteté. Viens nous convaincre, Seigneur, qu'il nous est possible de livrer ce combat-là, de ne pas rester assis dans un péché vaincu, Seigneur. Et nous apprendre à nous engager dans ce combat, Seigneur, à cause de la grâce qu'on a connue en Jésus-Christ. Et nous parler ce matin, Seigneur, par ta parole. C'est en Jésus que nous te prions, Père. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu que Julie va nous lire.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré du livre 1 Jean au chapitre 2, verset 28, jusqu'au chapitre 3, verset 10, dans la nouvelle édition de Genève. 1 Jean, chapitre 2, verset 28, à chapitre 3, verset 10. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère.
Merci, Julie. On a tous eu, j'imagine, au moins un bon prof à l'école. Puis, je m'explique. Un bon prof qui était un bon pédagogue, qu'il aimait sa classe, on savait qu'il aimait ses élèves, il était là pour nous, il était attentif. Il savait communiquer sa matière aussi lorsqu'on approchait des examens. Il voulait nous préparer pour nos examens. Il voulait s'assurer qu'on était solide, qu'on était en confiance. J'imagine que vous avez tous eu au moins un prof comme ça, puis ils nous marquent, ces gens-là, parce qu'ils sont là. On sent que ça dépasse communiquer la matière. Ils veulent prendre soin de nous. Et spécialement, la période des examens vient de terminer pour tous ceux qui sont à l'université, cégep, au secondaire, tout ça. Et on a tous eu, à un moment donné, dans notre parcours, un bon prof qui était là, qui nous préparait comme il faut. Des fois, on pouvait quasiment deviner les questions qui allaient être posées. Il était presque en train de nous les donner. Il voulait s'assurer qu'on maîtrise la matière. Et d'un autre côté, j'imagine aussi que vous pouvez vous identifier avec ça. On a tous vécu un moment où on s'était préparé pour un examen, on était sûr de notre coup. On était confiant. Je maîtrise la matière, ça va bien aller. Puis on se présente à l'examen, puis on fait l'examen, puis ça va bien. Puis tu quittes l'examen, puis tu te dis, celui-là, il est fait. Celui-là, je suis pas sûr, celui-là, je suis pas sûr, celui-là, je suis pas certain, mais ça, là, ça va bien aller. Et le résultat vient, puis tu comprends absolument rien de ce qui s'est passé. Tu as complètement floppé ça, tu as complètement passé à côté. Pourtant, tu étais sûr de ton coup. C'est un peu ça que Jean est en train de faire avec nous ce matin. Écoutez ce que Jean dit au verset 28. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Tout un passage, n'est-ce pas? Il veut les préparer, il veut nous préparer, il veut qu'on soit plein d'assurance, puis en même temps que cette assurance-là soit pas vide, qu'elle soit pas creuse, qu'elle soit pas fausse. Donc, il veut prendre soin de nos cœurs. C'est pas qu'il veut nous faire peur. Au contraire, il veut qu'on puisse attendre le retour de Christ avec une entière assurance. Et en même temps, il craindrait que quelques-uns aient une assurance mal fondée et qu'ils soient éloignés de lui. Si vous êtes familier avec l'Évangile de Jean, vous passez un passage où Jésus le dit explicitement. « Retirez-vous de moi, je ne vous ai pas connu. » Comment est-ce qu'on gagne de l'assurance en Jésus-Christ? Et Jean nous dit dans ce passage-là qu'on gagne de l'assurance en apprenant à livrer le bon combat contre le péché. En apprenant à s'appuyer sur la grâce, sur cette nouvelle identité qu'on a en Jésus-Christ, et en livrant ce combat-là jusqu'à la fin, sans se relâcher. Ce matin, on va voir ensemble que Jésus-Christ est venu pour ôter le péché et faire de nous des enfants de Dieu. Et par conséquent, parce que je connais Jésus-Christ, j'applique mon cœur à combattre le péché chaque jour de ma vie. Chaque jour de ma vie, je vais appliquer mon cœur à combattre le péché. Rappelez-vous pourquoi Jésus est venu. Rappelez-vous pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour livrer une bataille. Jésus n'est pas simplement cet enseignant-là sage, calme, qui avait toujours une bonne réponse, qui savait accueillir. Jésus est venu pour vaincre le péché, pour enlever quelque chose qui est impossible à nous d'enlever. Regardez avec moi 1 Jean 3:5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Cette semaine, ça me faisait du bien de méditer sur le fait qu'on est engagé dans une guerre spirituelle. Jésus est venu pour vaincre les œuvres du diable. C'est ça que les Écritures me disent. Peut-être vous dites, OK, c'est là que je décroche, mon homme. Le diable, tu sais, des cornes, puis une petite queue, puis c'est fini, je viens de débarquer, mon chum. Reste avec moi encore. Reste avec moi encore. 1 Jean 3:8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jean fait probablement allusion à Genèse 3. Déjà, il faut aller lire le premier livre de la Bible pour comprendre qu'au début, tu adhères à tout le récit. Reste, continue dans l'histoire. Tu vas voir, ça fait énormément de sens pour comprendre ton cœur, mon cœur, la société et beaucoup de choses dans le monde. Puis Dieu déposera la conviction que ce récit-là est véridique en son temps. Mais Jean fait probablement allusion à Genèse 3 ici. Le moment où le péché entre dans le cœur de l'être humain, de l'homme et de la femme, il entre dans nos cœurs de manière à redéfinir ce que nous sommes. C'est super important. Tu ne peux pas saisir, comprendre le christianisme si tu ne saisis pas que le péché devient partie intégrante de ce que nous sommes profondément. L'image que j'avais cette semaine lorsque je pensais à cette réalité de notre nature pécheresse, c'est pas une écharde. Tu sais, quand tu te fais tu te fais enlever une écharde. Ça, des fois, c'est simple. Des fois, ça va bien. Même, tu vas avec les dents. Puis là, tata, tu viens de la casser. Tu sais. Fait que ça va être un petit peu plus de travail, un peu plus profond. Puis là, tu s'y vas avec des instruments de fortune. Finalement, ça finit avec une chirurgie. Ma femme est en train de m'ouvrir le doigt avec son scalpel. Pour réussir à enlever cette affaire-là. Mais c'est juste une écharde. Tu sais. Ça finit là. Ou encore lorsque je me suis fait enlever mes 4 dents de sagesse. Un peu plus violent qu'une écharde. Tu sais. Bon, aujourd'hui, c'est assez simple. Dans le temps de mon beau-père, il m'a raconté, assez jeune, le dentier, tout le kit, à froid, tic, 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 tic. Plusieurs ici ont connu ça, je ne voudrais pas lever la main, on peut savoir qu'il y a des dentiers, on va vous laisser votre vie privée. À froid, ça allait plus vite, moins de rendez-vous chez le dentiste. C'est violent, hein? Mais c'est pas encore une transplantation cardiaque. Ah, une transplantation cardiaque, on parle d'autre chose, n'est-ce pas? À cœur ouvert, pouf, on sort ça de là, t'es gardé artificiellement en vie, boum, on s'en va chercher le cœur de quelqu'un. Wow! On est ailleurs. Et tout ça n'a rien à voir. C'est beaucoup trop faible comme illustration pour refléter, pour imager ce dont on parle ici dans le passage. Lorsque l'être humain a péché, le péché est entré en lui et devenu sa nature propre, sa nature profonde. Ce n'est pas une écharde à enlever, ce n'est pas 4 dents de sagesse, ce n'est pas une transplantation cardiaque. Parce qu'une fois qu'on aura fait tout ça, profondément, c'est quoi? Tu es encore la même personne. Tu as encore ta même vieille nature crasse qui te rend incapable par tes propres forces de marcher dans les voies de Dieu. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu enlever. C'est ça que Jésus-Christ est venu détruire. Le langage qui est utilisé ici, c'est que Jésus est venu, le Fils de Dieu est venu au verset 8, et a paru afin de détruire les œuvres du diable. Lorsqu'on parle d'ôter le péché, c'est d'éradiquer, de détruire en nous cette nature pécheresse qui est là, qui fait partie de ce qu'on est. Qui est non seulement en moi, mais qui est partout dans le monde aussi. Le monde est beau, il est merveilleux. Puis en même temps, il est affreux, il est laid. C'est le paradoxe quand tu lis les Écritures de voir une création si extraordinaire, puis en même temps dénaturée constamment par le péché, à travers bien des choses que nous faisons, que nous disons. Le péché est venu infecter nos relations les uns avec les autres. Il est venu infecter notre rapport à nous-mêmes, notre manière de voir qui nous sommes, notre définition de notre propre nature. Mais il est venu surtout infecter et briser notre communion avec Dieu. Et Dieu nous révèle dans sa parole que ce n'est pas simplement des concepts. Le péché, ce n'est pas simplement une idée. On va apporter une nouvelle idée aux hommes qui va être autrement, puis on va les instruire, on va les asseoir dans une classe, puis ils vont voir le monde autrement, ils vont adopter une autre philosophie. Ce que les Écritures nous disent, c'est que le péché a un auteur, une personne, qui n'est pas simplement un principe. C'est même plus qu'un principe actif, c'est une personne qui est le diable. Et oui, je crois au diable, je crois en Dieu, et je crois au diable. Puis pour être franc avec vous, je crois qu'il y a beaucoup de choses que la science ne nous a pas encore aidé à comprendre. Je n'ai pas de difficulté à accepter que la science ne nous a pas tout révélé, puis la science ne pourra probablement jamais tout nous révéler. Parce qu'il reste toujours bien que la science ne peut pas aller plus loin que notre cerveau. Et moi, je ne suis pas capable d'appréhender toute la réalité de l'univers, ce n'est pas vrai. Les Saintes Écritures me disent que ce n'est pas simplement une philosophie, le péché, qu'on va remplacer par une bonne philosophie qui va être la sainteté. Ce n'est pas simplement un principe actif où on va se rééduquer, on va prendre une pilule, ça va régler tout ça. Il y a un auteur derrière ça qui est le diable, qui est en lutte avec Dieu, qui est en guerre avec Dieu. Il y a une réalité spirituelle qui dépasse ce qu'on voit avec nos yeux. Et cet être-là est actif depuis la chute de l'homme. Présent parmi les hommes, instruisant nos sociétés à prendre ce que Dieu a fait de beau et à le pervertir, instruisant nos cœurs à prendre ce qui est bon et en faire des idoles, les mettre à la place de Dieu dans nos cœurs, nous instruisant à être égoïstes, centrés sur soi. Et Jésus-Christ est venu livrer la guerre. Il est venu pour ôter le péché. Et ça, ça s'est fait au prix de la croix. Je l'ai dit souvent à l'Église, vous m'avez souvent entendu le dire, mais Dieu n'a pas fait une scène, une pièce de théâtre lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est violent, la croix. Ce n'est pas juste de la philosophie. Vous comprenez, de la philosophie, c'est des débats d'idées dans un cours au cégep. C'est sympathique, puis ça peut changer le monde. Mais Jésus n'était pas un philosophe. Jésus était un sauveur. Jésus était un vainqueur qui venait combattre pour faire plus qu'une transplantation cardiaque, pour venir ôter le péché. Et ça, ça a demandé qu'il soit cloué sur la croix, que son sang soit versé, afin que Dieu, dans sa justice, puisse choisir de nous faire grâce malgré notre nature pécheresse. Et il a fallu qu'un homme pur et sans tache, nous dit Jean dans ce passage-là, vienne et s'offre en sacrifice pour vaincre le péché et vaincre le diable. Et lorsqu'il meurt sur la croix, il s'exclame « Tout est accompli ». Et lorsqu'il ressuscite d'entre les morts, nous savons qu'il a vaincu. Amen. Nous savons qu'il a vaincu. Lorsqu'il ressuscite d'entre les morts, c'est violent la croix. Vous viendrez me dire que le péché, ce n'est pas violent. Vous ne lisez pas les journaux? Vous n'avez pas lu les journaux cette semaine, les dernières semaines? Le péché, ce n'est pas violent? Dans vos relations, dans vos familles, dans vos business, au travail, dans la société, le péché, ce n'est pas violent? Pour que le péché soit enlevé, pour que le diable soit vaincu, il a fallu une violence plus grande encore, le sacrifice libre et volontaire de Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés. C'était le prix à payer pour le pardon de nos péchés. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour ôter le péché. Maintenant, comme je le disais au début de l'exposé, le but de Jean, ce n'est pas de nous faire peur. Le but de Jean, c'est de nous rassurer. Je l'ai dit la semaine dernière, c'est vraiment un modèle pour moi comme pasteur, c'est un modèle pour nous comme parents. Jean est un bon berger, et avant d'aller plus loin, avant de nous pousser un peu dans nos retranchements puis dire « voici ce que ça implique pour vous », il nous rappelle notre identité. Si Jésus est venu pour enlever le péché, il nous rappelle tout de suite après, au verset 1, 1 Jean 3, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Avant de nous provoquer, avant de nous demander d'être conséquents avec l'œuvre que Christ a fait à la croix concrètement dans nos vies de manière pratique, Jean prend le temps de nous rappeler que nous avons été aimés de Dieu. Ce n'est pas juste un nom qu'il nous a donné. Regardez ce qu'il dit. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Mais ce n'est pas juste un nom, nous le sommes. Être chrétien, ce n'est pas juste quelque chose, un nom que Dieu te donne, c'est ta nature profonde qui change. Tu deviens un enfant de Dieu. Ça présume que tu n'étais pas un enfant de Dieu avant. Ça, c'est la partie difficile à accepter pour accepter l'Évangile. Parce qu'on est tous convaincus, avant d'être convaincus d'être pécheurs, on est tous convaincus qu'on mérite le ciel, qu'on est une belle personne, puis que Dieu veut absolument qu'on soit dans son équipe. Puis à un moment donné, tu réalises que cette nature pécheresse-là, c'est vraiment toi. C'est vraiment toi. C'est comme ça que Dieu doit te voir parce que c'est la réalité de ce que tu es. Mais aujourd'hui, Jean me dit, tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a accueilli dans sa famille. Et je sais que je suis un enfant de Dieu parce que j'ai cru tout simplement. Parce que je l'ai connu. J'ai cru en Jésus-Christ. C'est super important. Jean prend le temps de me rappeler mon identité avant de placer les devoirs devant moi. Parce qu'un chrétien ne poursuit pas la sainteté sans être chrétien, sans avoir été gracié. Faire les choses dans l'autre sens, c'est toutes les religions du monde, sauf le christianisme. C'est ça la vérité. Il y a des bonnes personnes. Hein? Vous regardez des gens dans plein de religions, vous dites, il y a tellement des bonnes personnes. Il faut qu'elles soient des bonnes personnes parce qu'elles doivent se présenter devant Dieu qui va les juger. Elles doivent absolument être des bonnes personnes si vraiment elles croient en Dieu. Alors c'est sûr, c'est son religieuse, spirituelle, qu'elles vont s'appliquer à être la meilleure personne possible si elles croient vraiment dans un Dieu saint. Pourtant, ce que l'Évangile nous révèle, c'est que malgré tous nos efforts, on n'arrive jamais à être des bonnes personnes. Parce que ce n'est pas une écharde, ce n'est pas des dents arrachées, ce n'est pas un cœur de chair à changer, c'est un cœur spirituel qui doit être changé. C'est ma nature profonde qui doit être transformée. On lit dans Jean 1, 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ la parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce n'est pas par mon œuvre, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est croire en lui. » Et déjà, si ça, ce n'est pas clair pour toi, si tu n'as pas une certitude que tu es un enfant de Dieu, mais pas une certitude qui vient de « Ah oui, tu sais, moi je crois en Dieu, Dieu il est cool, Dieu est bon, tout le monde est un enfant de Dieu, j'imagine que Dieu est comme ça, puis je vais forcer pour être convaincu qu'il est comme ça. » Moi, je t'encourage cette semaine. Ça, c'est 1 Jean. Va dans Jean, l'Évangile de Jean. Lis et relis Jean 1 et puis Jean 3. Pour saisir la nouvelle naissance, cette réalité que tu as besoin d'une transformation dans ta nature profonde, et que cette transformation-là, ce n'est pas par tes propres mérites que tu vas réussir à le faire, ce n'est pas en t'efforçant d'être un bon religieux que tu vas y arriver. Mais parce que j'ai cru dans l'œuvre de Jésus-Christ, parce que j'ai reçu, Jean nous dit au début de cette lettre-là, il nous parle de la parole de vie qui s'est incarnée. C'est Jésus-Christ, parce que j'ai reçu cette parole-là, je crois et je sais maintenant que je suis un enfant de Dieu. J'ai cette nouvelle identité-là. Ça va m'instruire, ça va me conduire à vivre autrement. Mais je ne vais pas chercher à vivre autrement en quittant cette réalité, cette identité que j'ai en Jésus-Christ. Je retomberai dans cette vieille pratique d'une religiosité où j'essaie par moi-même de plaire à Dieu. Un seul a plu vraiment à Dieu. Dieu l'a ressuscité des morts, Jésus-Christ. Et c'est par la vertu de son sacrifice que nous pouvons plaire à Dieu. C'est ça qu'on dit lorsqu'on parle d'être caché derrière la croix, à l'ombre de la croix, pour que Dieu me regarde à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et je sais que c'est vrai, me dit Jean, parce que Dieu a placé sa semence en moi. Regardez 1 Jean 3, 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Il ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Jean l'appelle ici la semence de Dieu. C'est vraiment le mot grec « sperma » qui est là, en passant. Donc, c'est vraiment l'idée d'un principe actif de vie qui est déposé en nous. Un peu plus tôt, il a appelé l'onction. Rappelez-vous la semaine dernière? L'onction de Dieu. Il est en train de parler de l'Esprit de Dieu. La semaine dernière, on parlait de sectes chrétiennes, de mouvements qui ont quitté le christianisme. Certains d'entre eux vont vous dire « Le Saint-Esprit n'est pas une personne, c'est une force. » Non, c'est la vie de Dieu. Sperma. C'est la vie de Dieu. Une vie nouvelle qui est placée en moi, c'est son esprit qui est vivant, qui crée une vie nouvelle. Ce n'est pas simplement une force, c'est une vie nouvelle qui est en moi. Son onction, son esprit qui est sur moi. Et son esprit m'instruit dans ses voies, me conduit dans ses voies, m'apprend à marcher avec lui. Je sais, parce que j'ai l'esprit de Dieu, que je suis un enfant de Dieu. Et cette identité-là, je ne veux pas la quitter, je veux chérir mon identité, je veux jamais l'oublier, je veux me lever le matin, je vous le dis souvent, ce matin je l'ai fait encore, ce matin j'étais stressé. Hey, il faut que je me présente devant vous ce matin. Comprenez? Ah, je suis super spirituel, moi je fais tout par l'esprit. Non, je me suis levé, j'étais stressé, j'ai moins bien dormi. Seigneur, je vais aller prêcher ta parole avec intégrité. Seigneur, c'est ta parole, il faut que tu viennes les rencontrer. Avant de me lever, je repasse l'Évangile dans mon cœur. J'ai besoin de l'Évangile, j'ai besoin de me rappeler de mon identité. C'est ton œuvre, Seigneur, c'est pas mon œuvre. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de chérir. Son esprit est là pour m'instruire, pour me rappeler que je suis un enfant de Dieu et je ne veux pas quitter cela. Évidemment, ce que ça veut dire, et c'est ça qu'il dit à la fin au verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Avec Jean, tu n'as pas le choix. Hein? Tu es dans un camp ou tu es dans l'autre. Il n'y a pas beaucoup d'autres options. Tu es avec Dieu ou tu es contre Dieu. Tu es pour Dieu ou tu es pour le diable. Et je sais que c'est offensant, je sais que c'est choquant à celui qui dit non, mais je suis un être humain comme toi, mon ami, je suis pas plus pire que toi. Oh, si tu savais comme tu n'es pas plus pire que moi. Moi, je sais que je suis probablement bien pire que toi. Donc ça, c'est pas un débat. Ça ne sera jamais un débat entre nous. Tu peux venir me voir, je vais te dire, de toute cette assemblée-là, le plus grand des pécheurs, c'est moi. Tu peux être assuré de ça. Et j'espère que chacun des chrétiens ici va avoir le réflexe de te dire ça aussi. Ça serait juste bien refléter l'Évangile. Donc, ce n'est pas ça la question. Mais la question, c'est qui sers-tu? Est-ce que Dieu est ton sauveur? Est-ce que Dieu est ton roi? Est-ce que Dieu est ton maître? Si ta réponse est non, c'est moi. Je suis un être intelligent, autonome, indépendant. Autonome! Tu as créé les cieux et la terre. Tu as généré l'oxygène que tu respires à l'instant. Tu es 100% autonome pour de vrai. Attends, la maladie va t'attraper bientôt. La vie est courte, hein? La vie est courte. Tu vas réaliser que tu n'es pas si autonome quand quelqu'un d'autre va changer tes vêtements, te donner ton bain. Tu vas réaliser que tu n'es plus très, très autonome. Fils de Dieu, enfant de Dieu ou enfant du diable. Et si Jean dit ça, ce n'est pas pour mépriser des personnes. Et parce qu'il veut qu'on soit prêt à rencontrer Christ lorsqu'il va revenir, à rencontrer Dieu lorsqu'on va mourir. Si dans ton cœur, tu n'as pas l'absolue certitude que tu connais Dieu sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et que son esprit t'appelle ce matin, réponds à son appel. Deviens un enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ, la parole de vie. Dans ton cœur, humblement, c'est profondément humiliant de devenir chrétien parce que j'arrête de m'appuyer sur moi-même et je m'appuie seulement sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis un enfant de Dieu, je veux résister au diable. C'est l'œuvre que Jésus-Christ a faite. Il est venu pour ôter le péché. Il est venu pour détruire l'œuvre du diable. C'est l'œuvre à laquelle je suis appelé maintenant moi-même, à résister au diable et à résister au péché. Jean termine ce passage en nous disant que nos cœurs, maintenant, doivent être consacrés à combattre le péché. C'est probablement un des passages les plus troublants de 1 Jean. Parce que Jean nous dit que celui qui connaît Dieu ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché. Certaines traductions, peut-être la vôtre, « quiconque connaît Dieu ne pêche pas ». Le grec qu'on a ici, c'est un présent continu, donc qui ne pêche pas continuellement, mais la question est beaucoup plus complexe que ça. Pour être franc avec vous, le texte est vraiment difficile. Jean est en train d'induire qu'il y a vraiment une transformation profonde. Certains sont allés jusqu'à enseigner que le chrétien peut atteindre ce qu'on appelle le perfectionnisme, la perfection. Parvenir à un certain moment donné dans sa marche chrétienne à un état tel, après plusieurs révélations, plusieurs baptêmes de l'Esprit, plusieurs onctions, en venir à ne plus pécher du tout. Ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. Paul dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Et Jean nous dit un tout petit peu plus tôt, dans Jean 1:8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Alors déjà, peut-être qu'il faudrait chercher l'orgueil dans le cœur de celui qui dit qu'il ne pêche plus. C'est aussi un péché. Mais qu'est-ce que je fais avec ce passage-là qui me dit que celui qui connaît Dieu ne pratique pas le péché, puis en même temps, celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur? Jean est en train de nous dire que celui qui a connu Dieu a vécu un changement profond et fondamental dans son être intérieur. Déjà, pour accepter l'Évangile, je l'ai dit tout à l'heure, il faut reconnaître que je suis pécheur. Mon rapport au péché change fondamentalement quand je deviens chrétien, parce que je reconnais que c'est quelque chose de mal, qu'il y a plein de mes comportements, de mes pensées, de mes paroles qui étaient fondamentalement des offenses envers Dieu, fondamentalement une œuvre de destruction dans mes relations, fondamentalement une œuvre de destruction envers moi-même. Alors déjà, mon rapport au péché, au moins dans ma compréhension du péché, a changé profondément lorsque je suis devenu chrétien. Mais deuxièmement, Jean me dit, il y a quelque chose en toi qui fait que le péché n'est jamais un endroit de réel bonheur. L'esprit est là en toi, t'instruit, puis tu peux pas juste t'abandonner là puis dire « Oh, good time ». Il y a quelque chose de profondément contre nature puisque j'ai la semence de Dieu en moi, j'ai l'esprit de Dieu en moi, qui n'est pas simplement une force, qui est une personne, qui est en lutte, qui est là pour forger le caractère de Christ en moi. Est-ce que tu connais ça, ce combat-là? Est-ce que ça veut dire qu'on ne pêche plus? Jean nous dit non, celui qui dit qu'il n'y a pas de péché est un menteur. Donc on pêche. On pêche. Je pêche. Je pêche encore beaucoup trop souvent. Mais dernièrement, je dirais que Jean est en train de nous dire que celui qui a connu Jésus-Christ est dans une trajectoire très claire. Il est engagé dans une trajectoire très nette parce qu'il saisit que Jésus-Christ est venu pour enlever le péché. Il saisit le prix qui a été payé. Il saisit qu'il a maintenant une nouvelle identité de grâce en Jésus-Christ. Il a été gracié. Et tout ça l'engage, devient moi-même un adversaire du diable, du péché, du vieil homme qui trop souvent s'exprime en moi. Et donc, profondément, il y a une trajectoire nouvelle dans ma vie où je cherche à me purifier moi-même. C'est ça que Jean dit, n'est-ce pas? Il se purifie lui-même. Quiconque a cette espérance en lui, 1 Jean 3:3, se purifie comme lui-même est pur. Je réalise que Jésus-Christ est venu pour ôter le péché, lui qui était pur, parfait, c'est le sacrifice que ça prenait à la croix. Et lorsque je prends la mesure de ce qu'il a fait pour moi, ma plus grande ambition, c'est de lui ressembler, d'être à son image, d'être comme lui. Et par conséquent, j'applique mon cœur à me purifier. Jean n'est pas en train de parler ici d'une purification qui va me permettre d'être sauvé. Il n'est pas en train de dire que je pourrais moi-même, par moi-même, me purifier. On vient de le voir. Je suis un enfant de Dieu et c'est par la semence, l'Esprit de Dieu qui demeure en moi que je suis engagé. Il faut premièrement que je devienne chrétien pour ensuite poursuivre la sainteté. Non pas d'une manière que je pouvais, comme je pouvais le faire avant, essayer de me purifier moi-même pour gagner mon ciel, pour satisfaire aux exigences de Dieu, jusqu'à poser des gestes extrémistes, même des actes de violence, un sacrifice violent. Certaines religions vont prôner ça, n'est-ce pas? Pour me présenter devant Dieu. Non, c'est Christ qui l'a fait. Et parce que j'ai cette nouvelle identité-là, je me purifie moi-même. Je suis activement engagé. J'ai des actions à prendre pour me séparer dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes paroles, de mes actions, dans mes actions du péché. Je vous ai déjà parlé de John Owen, un puritain. J'ai fait une traduction libre, je vais lire après en anglais, mais vous pardonnerez la qualité de la traduction. Voici ce que John Owen écrit dans « Mortification of Sin », « Mettre à mort le péché ». Le péché ne fait pas que demeurer en nous, il est toujours actif. Il travaille toujours à produire les œuvres de la chair. Lorsque le péché nous laissera tranquille, nous pourrons le laisser tranquille. Mais comme le péché n'est jamais moins calme que lorsqu'il se fait silencieux, alors notre combat contre lui doit toujours être vigoureux, à chaque instant, même lorsqu'il semble disparu. Sin does not only still abide in us, but is still acting. Still laboring to bring forth the deeds of the flesh. When sin lets us alone, we may let sin alone. But as sin is never less quiet than when it seems to be the most quiet, and its waters are for the most part deep when they are still, so ought our contrivances, Against it be vigorous at all times and in all conditions, even where there is least suspicion. Comment est-ce qu'on cherche à se purifier nous-mêmes? Conseil pratique, j'ai fait une liste concrète. Comment est-ce qu'on fait ça? J'ai les Écritures, je médite les Écritures, j'ai besoin toujours que mon cœur soit ramené là. C'est mon baromètre, c'est ma règle de vie, c'est mon inspiration, c'est mon instruction. Je passe du temps dans les Écritures. Je lis des bons livres chrétiens, petite plug. Je lis des bons livres chrétiens pour grandir constamment, pour m'inspirer de l'expérience de d'autres chrétiens. Je discute avec mon groupe de quartier, avec ma famille, avec des frères et sœurs, des implications des exposés bibliques ou des Écritures dans ma vie. J'ai besoin de discuter de ça parce que j'ai des angles morts. Puis c'est à force de discussion que je dis, aïe, aïe, si ça veut dire ça dans ta vie, peut-être qu'il y a ça dans ma vie. Puis dans l'échange, ça devient très concret. Cet esprit-là qui nous habite vient nous instruire ainsi. J'ai toujours eu peur de ceux qui disent, non, non, moi je fais ça par moi-même. J'ai le Saint-Esprit avec moi. Oh oui, c'est ça, tu es ton seul conseiller avec le Saint-Esprit. Ça me fait peur. Prie pour que Dieu te montre si tu es dans une mauvaise voie. Le psalmiste priait constamment, hein? Psaume 119, « Montre-moi si je suis dans une mauvaise voie. » Invite les chrétiens autour de toi. Des non-chrétiens aussi, mais commence par les chrétiens qui sont censés avoir ce discernement-là. Invite des chrétiens autour de toi à t'aider à voir s'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Invite-les à te réprimander avec amour. Ah, ça se peut que tu découvres des péchés dans ta vie. Confesse à Dieu premièrement, accepte sa grâce, son pardon. Confesse à des frères et sœurs, particulièrement si tu sais que tu vas avoir besoin de support pour combattre ce péché-là, parce qu'il risque de revenir. Tu connais ton histoire, ta relation avec ce péché-là. Et puis persévère en te rappelant que nous sommes sauvés par la grâce. Si vous avez reçu cette semaine l'invitation, le courriel de l'Église, j'ai parlé de Billy Sunday. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient Billy Sunday, c'était un évangéliste, un monsieur qui a vécu de 1862 à 1935. À son époque, ça a été le Billy Graham de l'époque, pour ceux qui ont connu Billy Graham. Déjà, je sais qu'on est ailleurs, mais vraiment, il était connu partout à travers tous les États-Unis. Puis Billy Sunday a été un voltigeur, je n'irai pas trop loin dans le baseball, parce que je vais dire des niaiseries avant longtemps, mais il a été un voltigeur pendant 8 ans dans la Ligue nationale. C'était vraiment une vedette super connue. C'était un gars très, très animé, puis... À un certain moment donné, dans sa carrière, il s'est converti, devenu chrétien. Il a quitté sa carrière vraiment au sommet de sa carrière pour devenir un prédicateur, un évangéliste. Et c'était un homme très, très, en anglais on dit « lively », très imagé. Il restait très, c'est vraiment un évangéliste populiste, mais qui a eu un impact sur des millions et des millions de personnes. Et des fois, il y avait une manière très... très forte d'illustrer des choses. Et j'ai aimé cette citation. Encore une fois, une traduction libre de ma part, vous me pardonnerez. Voici ce que Billy Sunday a dit par rapport au péché. « Je suis contre le péché. Je vais le kicker aussi longtemps que j'aurai un pied. Je vais le combattre aussi longtemps que j'aurai un poing. Je vais lui donner des coups de boule aussi longtemps que j'aurai une tête. Je vais le mordre aussi longtemps que j'aurai une dent. Et quand je serai vieux, sans poing, sans pieds, sans dents, je vais le mâcher jusqu'à ce que j'arrive au ciel et qu'il soit jeté en enfer. » Le combat contre le péché ne s'arrête jamais, les amis. Il ne s'arrête pas. Il s'arrête lorsque le Seigneur vient nous chercher et qu'on se retrouve face à lui. Parce que Jean nous dit que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et le combat va juste s'arrêter là. Souvent, lorsqu'on a cette promesse qu'on va être transformé à l'image de Christ, on a des images physiques, n'est-ce pas? On pense à « Ah, je vais avoir un corps glorifié, je vais être comme Jésus-Christ. » Certainement, sans l'ombre d'un doute, je ne pense pas que c'est de ça dont Jean est en train de parler ici. Le verset 3 nous dit de quoi il est en train de parler. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Jésus-Christ était pur parce qu'il s'est rendu à la croix. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité pur parce que dans sa nature propre, il est pur. Et on va livrer une bataille sans merci, sans fin, jusqu'à ce qu'on le voit en face. parce que notre vieil homme veut revenir, veut refaire surface constamment. Mais celui qui a connu Jésus-Christ sait qu'il est un enfant de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en lui et cherche activement à faire mourir les œuvres de la chair pour se purifier. Et ce combat-là va persister jusqu'à son retour. Alors seulement le combat va s'arrêter parce qu'on va être transformé, rendu semblable à lui, pur à notre tour. Terminer les combats avec le péché, libérer entièrement, vraiment à l'image de Christ. Ça va être un moment glorieux, n'est-ce pas? Ça va être un moment glorieux. C'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu t'appelle à livrer un combat sans merci. Pas parce que tu veux gagner ton ciel, tu ne peux pas le gagner ton ciel. Il y a juste Christ qui peut faire ça, il l'a déjà fait. Tout ce que tu as à faire, c'est à saisir cette œuvre-là par la foi. La faire tienne, mais pas simplement pour devenir chrétien, la faire tienne pour marcher comme chrétien. Un chrétien qui oublie l'Évangile est incapable de marcher dans la vie chrétienne. Parce que la parole devient lourde, devient dure, parce que j'ai ce vieil homme-là qui veut refaire surface constamment. Et donc j'ai besoin, me dit Jean, de retourner constamment à mon identité en Jésus-Christ, me rappeler qui je suis en Jésus-Christ et tout simplement me confier en lui. Puis m'engager dans cette lutte-là jusqu'à la fin, où je n'aurai pas peur de prier et de dire « Seigneur, montre-moi mes péchés. » J'ouvre les Écritures pour aller puiser la grâce et la sainteté. Puis j'écoute ce que l'Esprit me montre, j'écoute les réprimandes des frères et sœurs, j'écoute ce que mes comportements inacceptables peuvent mettre en lumière au travail. Je suis attentif à ça, je n'ai pas besoin de fermer les yeux, j'ai la grâce. Puis je m'engage de tout mon cœur à résister au diable. Parce que je suis maintenant un enfant de Dieu. Et si ce matin Dieu t'appelle par son Esprit à devenir un enfant de Dieu, il faut que tu renonces à la fierté, à l'orgueil de dire que tu es maître de ta vie, que tu es capable de satisfaire aux exigences divines, que Dieu doit être juste amour. Autrement, comment tu pourrais satisfaire à ses exigences s'il était moindrement saint? Et simplement, venir te réclamer de la grâce en Jésus-Christ. Venir t'abandonner à la croix. Ce matin, on va faire quelque chose de différent. Je vais vous demander, pour la prière, pendant que les musiciens vont s'avancer, je vais vous demander de vous lever. On va se lever ensemble, puis on va préparer nos cœurs à la louange. D'accord? Je vais terminer avec un mot de prière, puis on va simplement préparer nos cœurs à la louange. Père éternel, nous sommes assemblés ce matin pour élever ton nom au milieu de nous. Seigneur, on ne peut pas et on ne doit pas parler de sainteté sans parler de l'Évangile, parce que tu es Dieu, tu es saint, tu es pur, et par nature, nous sommes pécheurs, Seigneur. Et c'est simplement à la rencontre de Jésus, lorsqu'on place notre foi dans son sacrifice, qu'une nature nouvelle nous est donnée, que nous devenons enfants de Dieu. Père, apprends-nous à rester là, à nous rappeler tous les jours que nous sommes enfants de Dieu. Réellement, nous le sommes. Ton Esprit habite en nous, Père. Rappelle-nous, Seigneur, constamment, apprends-nous à marcher à la lumière de la croix pour se rappeler non seulement de la grâce, mais du péché que Jésus-Christ est venu enlever, de l'œuvre du diable qu'il est venu détruire et de ce combat dans lequel nous sommes engagés, Seigneur. Apprends-nous quotidiennement à nous purifier, à écouter ton Esprit, à lui laisser nous parler, Seigneur, nous révéler là où on doit se détourner, là où on doit changer de voie, Seigneur, à se repentir, à te confesser nos péchés, à s'appuyer sur la grâce, à aller vers des frères et sœurs pour avoir du support, Seigneur, à plonger quotidiennement dans ta parole. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin. On veut te louer parce que nous avons connu que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.